La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
Alors je refais bonjour, c'est la midinale du 24 janvier, mon micro est allumé, ça change tout. Je suis avec Seb, salut.
Salut.
Et avec Asgar qui fait ses armes à la technique. Il dit pas bonjour
non,
du coup.
Non. Il commence vexé.
T'inquiète, hein, y en a qui ont jamais pris l'antenne, hein, donc
ouais.
Jusque-là tu t'en sors remarquablement bien. On commence avec. On est désolé, on refout tout en l'air et on reprend nos parties habituelles. Donc on va commencer avec la revue de presse.
Oui.
Ouais, pas mal. Hein. Et on va se relayer sur cette revue de presse, mais c'est Seb qui va commencer. Tu vas nous parler d'un truc qui a l'air tout à fait réjouissant,
ouais.
Qui s'appelle la loi de responsabilité pénale et de sécurité intérieure.
Oui, parce qu'elle vient enfin, ou pas, elle vient définitivement à peu près d'être validée. On attendait la décision du Conseil constitutionnel. Ben, la décision vient de tomber, là, le 20 janvier. Pour cette loi de responsabilité pénale et sécurité intérieure, qui, je le rappelle, on en avait déjà parlé avant. Alors, il y avait un des principaux trucs qui nous intéressait, c'était l'utilisation des drones, hein, l'encadrement des drones. Et il y a différentes choses là-dedans aussi dans cette loi. C'est une vraie loi fourre-tout. Mais là, on va parler déjà des drones. Donc, on se base sur un article de la Quadrature du Net, hein, qui a fait un boulot énorme depuis le début contre cette loi. Et bah, voilà, la Quadrature du Net, là, pour l'instant, acte une défaite importante. Parce qu'il faut quand même le préciser, les drones avaient déjà été interdits à 4 reprises depuis 2020. 2 fois par le Conseil d'État, 1 fois par la CNIL et 1 fois par le Conseil constitutionnel. Bon, ça n'a pas empêché le gouvernement d'insister, et à force d'insister, ben voilà, ils y sont arrivés. Donc, il avait été adopté le 18 novembre 2021 par le Parlement, donc en attente de la décision du Conseil, et ça prévoyait donc notamment de réautoriser les drones policiers, qu'ils le sont. Voilà. Donc, ils vont réoccuper le ciel et restaurer la surveillance de masse. C'est parti. Alors bien sûr, il n'y a pas, comme je l'ai dit, il n'y a pas que ça hein, dans cette loi. Les mauvaises nouvelles ne viennent pas toutes seules. Donc le Conseil constitutionnel valide aussi les caméras embarquées sur les véhicules de police, hélicoptères, voitures, montgolfières peut-être à venir, je ne sais pas. Et la vidéosurveillance des cellules de garde à vue aussi. Ça c'est dedans, donc maintenant voilà, vous serez en garde à vue et pour votre sécurité, vous pourrez être filmé. Quoi d'autre ? Alors, bien sûr, il y avait, comme je l'ai dit, hein, la Quadrature du Net s'est beaucoup battue. Et ils avaient quand même déposé des remarques en demandant au Conseil constitutionnel de taffer dessus. Ils avaient fait ça. Alors là, je suis complètement nul. La LDH, je l'ai.
Ouais. Hein,
la loi des...
Ligue
des droits de l'homme. Et il y a aussi le SAF et le SM.
Alors, syndicat de la magistrature.
Eh ben voilà, on est bien accueillis.
Oh. Et l'autre, je sais pas. Si, le SAF, syndicat des avocats de France.
D'accord. Donc ils s'y étaient mis à 4 quand même pour porter ces réclamations. Réclamations que le Conseil constitutionnel n'a pas pris la peine d'examiner, évidemment. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette loi fourre-tout, à part cette surveillance par caméra, bah, des amendes forfaitaires, des prises d'empreintes forcées quand vous arrivez au commissariat, la répression des mineurs isolés, la modification du régime d'irresponsabilité pénale, etc. etc. Donc justement c'est là-dessus que la Quadrature du Net et la Syndicat de la magistrature et l'autre là, avait porté des réclamations. Donc justement, donc, je vais un peu les citer, comme ça va vous donner un peu un aperçu de tout ce qu'il y a là-dedans. Donc, c'est les dispositions qui étaient contestée, c'était celle qui modifie le régime d'irresponsabilité pénale en cas de consommation de substances psychoactives, ce qui me semble que pour l'instant, on n'était pas considéré maître de ses moyens, ou je sais pas, c'était... Donc là, à mon avis, tout ça, ça saute, et maintenant, si t'as fumé un joint, que t'as fait une connerie, tu l'assumeras comme si t'avais pas fumé ton joint. Il y avait aussi un délit autonome de violence fait aux forces de sécurité intérieure et leurs conséquences sur la peine encourue et les crédits de réduction de peine. Je crois que tout ça, ça saute et ça va sanctionner encore plus fort. Donc attention quand vous jeterez des œufs à l'avenir sur les flics. Il y avait le port d'armes qui devait être autorisé pour tous les policiers de la réserve opérationnelle. Voilà, voilà. Donc pour la détention provisoire de mineurs, avant ils étaient préalablement considérés majeurs orientés à tort en comparution immédiate. Donc ça maintenant on peut placer en détention provisoire des mineurs, de mieux en mieux. Il y avait donc les coûts de l'amende forfaitaire pour des vols simples. Donc vous volez une pomme au magasin, maintenant les amendes forfaitaires, je crois qu'elles seront plus fortes. Donc la possibilité de recueillir les empreintes de manière forcée, y compris pour les mineurs. Donc ça, c'est quand un mineur se fait arrêter, embarquer, il n'aura plus le choix. Et s'il refuse de donner ses empreintes, il pourra se faire plaquer au sol par les flics au sein du commissariat pour qu'ils lui prennent ses empreintes. Il y avait aussi un truc sur la vidéosurveillance dans les lieux de privation de liberté. Donc ça, c'est pour la garde à vue. Et il y avait l'autorisation par la police administrative et judiciaire de déployer des drones de surveillance. Que normalement, tout ça, ça aurait dû être validé. Enfin, c'est ce que réclamait la Quadrature et le syndicat de la magistrature, que ce soit validé par un juge. Et en fait, c'est le préfet qui autorisera, c'est lui qui estimera que les circonstances le demandent et que c'est lui qui autorisera donc les flics à déployer les drones. Donc les flics autorisent les flics à déployer les drones. Voilà, voilà. Alors je reviens un peu sur cette histoire de drones, parce que c'est quand même assez important. Donc comme je viens de le dire, c'est le préfet qui l'autorisera. Et en fait, ce sera qu'après coup que la justice pourra dire en fait si c'était bien ou pas d'avoir utilisé les caméras. Mais c'est trop tard en fait. On vous a déjà filmé à l'insu de votre plein gré. C'est quand même des trucs de fou quoi. Et j'en suis tout ému parce que ça fait un moment que je suivais cette affaire et... Donc voilà, voilà. Il y a quelques réserves apportées par le Conseil constitutionnel sur la possibilité pour la police d'utiliser ces nouvelles caméras à des fins de reconnaissance faciale. C'est-à-dire que, en fait, normalement, si j'ai bien compris, la police ne pourra pas utiliser d'autres moyens de reconnaissance faciale que ceux qui seraient embarqués dans les drones. C'est-à-dire qu'il faut que le logiciel de reconnaissance faciale soit dans le drone. Alors, est-ce que ça limitera la connexion du drone en temps réel à un système d'intelligence artificielle? J'en suis pas trop sûr. Mais en gros, ils pourront pas y connecter d'autres systèmes informatiques pour faire la reconnaissance faciale en direct, quoi. Bon, c'est un peu léger, quand même. Il y avait aussi, au départ, le gouvernement voulait que l'expérimentation des drones puisse être faite par la police municipale. Alors, ils avaient mis en place, on pourra expérimenter pendant 5 ans. Donc ça, ça a été retoqué. Donc non, il n'y aura pas d'expérimentation de drones par la police municipale. Donc ça va freiner un peu les fantasmes sécuritaires des maires. Parce que là, c'était eux qui auraient pu le mettre en place. Voilà, voilà, voilà. C'est déjà pas mal, mais c'est très peu, quoi. C'est très peu. Alors, ces histoires aussi de reconnaissance faciale, ça concerne aussi bien les drones que les caméras embarquées dans les voitures ou sur les flics, quoi. Donc, actuellement, c'est vrai que les caméras embarquées, elles n'ont pas un gros... c'est pas un ordinateur non plus, quoi. Mais bon. Donc, voilà. Mais bon, c'est des garde-fous qui sont quand même très, très, très minimes, quoi. Et donc, c'est ça. C'est pour... contester les prises d'images qui seront faites par ces caméras, faudra saisir le tribunal administratif d'un recours et le juge saisi ne pourra évaluer donc l'utilisation de ces dispositifs qu'a posteriori, c'est-à-dire une fois que les utilisations abusives et non nécessaires auront été autorisées par le préfet. Voilà, donc bah voilà, c'est passé. Et alors là-dessus, la quadrature du net, hein, acte bien un échec, quoi. Là, on vient de perdre un gros truc. Mais ils essayent de continuer la lutte en disant qu'au niveau national, bah, maintenant c'est foutu et que bah, pour se battre, il va falloir multiplier les initiatives locales. Et pour ça, ils mettent en place un site que je clique dessus, c'est un forum, forum.technopolis.fr, et qui essaye de regrouper les différents témoignages et différentes actions qu'on pourrait faire au niveau local. Voilà, donc c'est pour aider, je sais pas, là-dessus, on peut trouver, nous on a fait ci, on a fait ça, on a porté plainte comme ça marche pas, quoi. Voilà, donc cette loi est passée. Et la prochaine, maintenant c'est ça, on va attendre la prochaine loi de sécurité, quoi. Parce que je pense qu'ils vont pas s'arrêter là. Alors peut-être jusqu'à présidentielle, il va peut-être se calmer un peu, mais bon, là je pense que tous les outils sont en place pour qu'on se fasse bien réprimander, surveiller, et il y a tout ce qu'il faut, quoi. Voilà pour cette jolie loi.
En
Ouais.
parlant de répression et de réprimande, Asgard, tu voulais nous donner des nouvelles de Pantin, enfin du lycée, du
Ouais,
camarade enseignant à Pantin, et notamment via le site de Sud 93, Sud-Éduc.
on avait évoqué la semaine dernière, du coup, cet enseignant de Pantin qui était donc au lycée enseignant au lycée Marcelin Berthelot, qui avait été convoqué au rectorat pour s'expliquer du coup d'une fable qu'il avait lue lors du conseil d'administration du lycée. Et cette fable, du coup, dénonçait une formation laïcité et valeurs de la République que l'ensemble de l'équipe enseignante du lycée avait subi. Et du coup, cette fable avait été lue en guise de motion et de protestation. Et on s'était dit qu'on suivrait un peu ce que publiait Sud, qui soutient ces enseignants-là. Et il y a deux communiqués qui sont disponibles sur le site de Sud 93. Donc un en soutien à cet enseignant et l'autre qui dénonce pour une part les attaques conjointes du rectorat et des médias d'extrême droite du coup qui reprennent cette affaire. Et donc il y a des articles qui ont été publiés dans Le Point et Valeurs Actuelles, du coup, qui reprennent la protestation qui a été faite contre cette formation et les deux inspectrices qui menaient cette formation-là. Et il y en a un autre qui est un autre article apparemment qui a l'air gratiné, qui s'intitule Gauchisme à l'école, le niveau monte, et qui est publié par une revue qui veut faire la jonction entre la droite et l'extrême droite que je connaissais pas, qui est donc plus ou moins qui a été lancée par le frère Bec Bédé, là, Charles. Et cette revue s'appelle L'Incorrect. Alors j'ai pas été payé l'article pour lire ce qu'il y avait dedans, mais ça a l'air pas mal, quoi. Enfin, ça a l'air relativement intéressant. Du coup, je vais vous lire le communiqué du coup qui parle de cette formation-là. Donc ça s'intitule De la fable à la fachosphère, l'obsession réactionnaire du ministère. Le 9 décembre, lors du conseil d'administration du lycée Martelin Ber... Le... lors du conseil d'administration du lycée Berthelot de Pantin, une motion collective des personnels a été lue, intitulée Le serpent et le roquet. Elle dénonce, sous la forme de la fable, pourtant chère à notre ministre, une formation indigente imposée au personnel de l'établissement. Bien plus prompte à menacer les personnels qu'à se préoccuper des moyens dans les établissements de l'Académie de Créteil, d'autant plus en période de crise sanitaire, le rectorat a immédiatement convoqué le camarade ayant lu la motion. La campagne actuellement menée au nom d'une prétendue laïcité est un pas de plus qui confirme l'obsession réactionnaire, islamophobe et sexiste du ministre et de ses affidés. Plus préoccupé des tenues des élèves, un jour trop courtes, un jour trop longue, mais jamais assez républicaine, que de la situation catastrophique de l'éducation sous Covid dans l'académie, le rectorat se raidit. C'est pourtant bien l'une des formatrices qui a lancé en forme de menace « Le recteur fait des descentes et prend en photo les filles voilées ». Au mépris de la liberté d'expression, des agents et agentes, et en particulier des représentants et représentantes des personnels syndiqués ou non, le rectorat désigne des coupables et organise la répression. Il peut compter sur des soutiens fidèles dès qu'il s'agit des lubies et infox du ministre Blanquer qui, au nom de la République, piétine l'état de droit et saccage le service public d'éducation. La presse d'extrême droite n'a pas tardé à reprendre et amplifier la version des deux inspectrices, dont la plainte s'est retrouvée bien plus vite entre les mains des journalistes qu'entre celles des personnes visées. Ces prétendus journalistes ne se sont pas embarrassés de vérité, ni du point de vue des personnels visés, réécrivant l'histoire au gré de leur marotte identitaire et de leur panique morale. Le point et valeur en guise de caution morale ne suffisait pas. C'est même le Conseil des sages de la laïcité, qui n'a de sage que le nom, qui a volé au secours du rectorat, arguant d'incidents qui ne sont pas avérés, racontant une formation sans y avoir assisté, cédant aux paniques morales les plus irrationnelles, les sages souscrivent au discours du rectorat. Un représentant des personnels devrait obéir à son chef d'établissement dans l'exercice de son mandat. Ces sages prennent parti d'office pour les inspecteurs, inspectrices, du haut de leur cénacle parisien réactionnaire. La fable Serpent et le Roquet, comme son nom l'indique, est un apologue, un récit imagé dont on peut tirer une morale. Voilà qui est fondamentalement moins politique que les malédictions lancées par les sages de la laïcité, les élucubrations de la presse d'extrême droite ou encore la parodie de colloque qui a servi de déversoir réactionnaire anti-woke sous les auspices du ministre Blanquer. Sud-Éducation 93 rappelle que les délégués d'organisations syndicales qui prennent la parole bénéficient de la protection que leur confère ce statut, en particulier lorsqu'elles et ils exercent un mandat, représentant-représentante du personnel. Sud-Éducation 93 n'est pas dupe de ces attaques qui visent à museler toute opposition à la politique libérale et réactionnaire du ministre Blanquer et à abîmer encore davantage les instances de démocratie à l'école. Sud-Éducation 93 appelle tous les personnels à refuser les formations laïcité en se déclarant en grève ces jours-là. Sud-Éducation 93 appelle tous les établissements qui le souhaiteront à envoyer une fable de soutien au personnel du lycée Berthelot. Nous les publierons. Sud-Éducation 93 appelle à la levée immédiate de toutes les accusations et sanctions qui pèsent sur les collègues qui ont su dénoncer et lutter contre les offensives du ministère Blanquer. Sud-Éducation 93 alerte sur la dérive répressive mise en place par l'administration Blanquer qui use de ses pouvoirs à des fins politiques pour servir un agenda réactionnaire et islamophobe. Sud-Éducation 93 demande la suppression du Conseil des sages de la laïcité. Donc le Conseil des sages a en effet publié, c'est sur le site du ministère, un communiqué qui notamment pointe la déshumanisation des inspecteurs et inspectrices à l'œuvre dans cette fable et les manquements des enseignants à leurs obligations de formation. Donc vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Et du coup, Sud-Éducation 93... semble lancer un concours de fables.
Ouais.
Il y en a une qui a été déjà envoyée par le lycée Paul-Éluard à Saint-Denis. Et je crois que tu voulais la lire. As-tu là ?
Oui, je l'ai. En fait, je vais lire la première qui a été publiée. Donc ça vient du lycée Paul-Éluard de Saint-Denis. Ça s'appelle « La chouette et le mulot ». Une chouette experte courtisanerie faisait régner dans les sous-bois sa tyrannie. Autour d'elle s'empressait un peuple de pies, prompts à chercher des proies à sa gloutonnerie. Notre chouette avait pour unique faiblesse le goût de se mirer dans l'eau claire et limpide, de laver ses serres dans l'élément liquide d'une fontaine proche. Oh, que de la sagesse ! Je représente bien la grande profondeur. Vraiment, je mérite l'honneur d'être d'Athéna l'animal. Je suis simplement sans égal. Et les pides abondaient, opinaient, jacassaient, voletant alentour pour qu'on chante et qu'on loue, du despote ébloui les nobles qualités, les austères vertus du rapace jaloux. Alors que la chouette était partie vanter sa réussite à ses amis, un jeune mulot quitta son abri, gagna la fontaine d'un pas hardi. Est-ce là le miroir qui nous permet de voir le mal devenir bien, le faux devenir vrai ? Il me semble pourtant trouver dans mon reflet la trace de mes deuils et mon grand désespoir. Tandis que s'élevait sa plainte déchirante, une pie attardée eut peur que l'on entende dévoiler la traîtrise de l'eau miroitante, partant de la chouette, la sombre propagande, à tire-d'aile elle s'envole, franchit forêt, fleuve et col. Du danger avertit enfin la chouette qui sitôt revint. Les serres en avant, prêtes à déchirer, on voit plonger les frais et le mulot tremblant n'aperçoit que trop tard, de son bec acéré, la pointe aussitôt teinte du sang innocent. Blessé, l'animal ronge et s'agrippe et se tord pour parvenir enfin dans un dernier effort à faire basculer la chouette meurtrie dans la fontaine dont l'onde calme a rougi. Qui, croyez-vous, profita du carnage? Sinon les charognards au noir plumage. Les funestes corbeaux s'offrent donc un festin. Mais le sous-bois frémit, les armes à la main. Et il y a une deuxième qui a été publiée entre-temps.
Ah bon?
Qui vient du lycée Angela Davis. Et ça s'appelle « On crie à haut sur le baudet ». Et donc, motion poétique de soutien des enseignants du lycée Angela Davis. Les enseignantes mobilisées du lycée Angela Davis apportent tout leur soutien à leurs collègues de Marcelin Berthelot, convoqués ce vendredi 7 janvier au rectorat de Créteil, pour avoir lu en conseil d'administration un petit poème qui ironisait sur la qualité et les orientations de la formation à la laïcité qui avait été dispensée dans son établissement. Ce refus d'entendre les questionnements des enseignantes sur un sujet complexe, cette tendance à sanctionner à l'aveugle dès lors qu'ils mobilisent leur esprit critique à l'égard de l'institution est un problème qui devrait toutes et tous nous interpeller. Nous avons nous-mêmes, l'année passée, été ciblés par ces logiques de répression qui se banalisent. Déjà, les vers se multiplient pour dénoncer cette convocation disproportionnée et injuste. Nous invitons nos collègues à se saisir de leurs plus belles plumes pour répondre avec créativité et humour à cette situation absurde. Et donc, je vais lire « On crie à haut sur le baudet ». Un enseignant fort courroucé d'être formé par le silence se voit mander, sans trop tarder, pour condamner son insolence. Si l'on enseigne la fontaine, c'est à la lettre et sans l'esprit. Car sous couvert de liberté, on fait pleurer celui qui rit. Ironiser en République, quel crime abominable! Se railler du mépris, qu'on pende le pendable! Selon que vous serez puissant ou misérable, les juges cristoliens désignent les coupables. Bon, ça va continuer, on va lire des fables.
Oui, et puis cette tendance de la fable, c'est aussi pour ironiser sur Banlanquer, dont une des premières mesures, quand il arrive au gouvernement, consistait à offrir un recueil de fables de La Fontaine aux élèves de primaire. Pour le coup, ça ne se limite pas à un rendez-vous chez le rectorat, la répression, apparemment ça va être judiciarisé, puisqu'il y a des plaintes pour diffamation. Parce que les inspectrices se sentent diffamées à devenir des personnages de femmes. Bref, on lira des fables.
On va lire des fables. C'est à moi, donc. Rapidement, je voulais parler d'un truc là qui était attendu, qui est la commission d'enquête au Sénat sur la concentration des médias. On vous renvoie à la carte publiée par Mediapart tous les ans, les médias qui possèdent quoi. Et en gros, ce sont les gros milliardaires propriétaires de médias qui vont être entendus les uns après les autres par une commission d'enquête au Sénat. Déjà passé Bolloré en premier, suivi de Bernard Arnault. Il y aura aussi Niel, Drahi, enfin tous ces grands propriétaires de médias. C'est raconté dans Mediapart, par plusieurs articles, et c'est Laurent Mauduit qui s'y colle. C'est peu dire qu'il y avait beaucoup d'attentes et qu'il y avait pas mal d'espoir chez certains journalistes, certains groupes de presse indépendants pour au moins bousculer les grands propriétaires de médias, pour au moins les questionner sur les objectifs, sur ce qu'ils sont en train de faire et pourquoi ils sont en train de le faire. le premier article de Laurent Mauduit, donc sur la première audition, qui est celle de Bolloré, résume assez bien ce qui s'est passé et ce qui va se passer, puisque c'est confirmé avec Bernard Arnault, qui lui est passé quelques jours après. L'article s'appelle « Bolloré, la commission d'enquête se mue en café du commerce ».
Oui.
Ouais. Ou en gros, il est rappelé, je vais juste lire le tout début de l'article, parce que c'est assez net, hein. Vous irez voir après, c'est un article en accès libre sur Mediapart. Donc ça commence par « Loin de bousculer Vincent Bolloré, la commission d'enquête du Sénat sur la concentration des médias s'est montrée approximative et bavarde, mercredi, au lieu d'être rigoureuse et pugnace. L'homme d'affaires a pourtant tombé un peu le masque, laissant transparaître ses attaches nationalistes. » Évidemment, ça va peu intéresser les enquêteurs du Sénat, enfin les sénateurs qui sont chargés de cette commission d'enquête, à savoir de toute façon que dans les gens qui vont l'interroger, il y a un sénateur PS qui s'appelle David Assouline et qui a œuvré pour que Bolloré, le groupe Bolloré ait les droits du foot. Mais que par contre, c'est ce qui est rappelé dans l'article de Mediapart, ils n'ont jamais bougé, jamais rien dit, jamais fait pression quand les grèves de journalistes se sont succédées et quand Laurent Mauduit parle de purge. Ouais. Il est quand même interrogé, Vincent Bolloré, sur cette question de... Alors pas de cette manière, on ne parle pas de purge, mais de départ. Il s'en explique en disant... C'est normal. Il y a des journalistes qui partent et il y en a d'autres qui viennent. On n'a pas supprimé d'emploi. Alors, s'ils n'ont pas supprimé d'emploi, tout va bien. Évidemment, la question de CNews et de la figure d'Éric Zemmour est évoquée. Mais alors, attention, avec quelle virulence?